Bien, Samuel Gorouna, donc vous venez ici de Kanaky, dans cette assemblée des peuples qui se retrouve ici à New York. Alors, on va vous demander de refaire le travail que vous venez de faire, de vous présenter un peu, de présenter surtout le peuple Kanak.
Oui, alors... Nous, enfin le peuple Kanak, donc de la Nouvelle-Calédonie, peuple indigène de la Nouvelle-Calédonie. On a des millénaires d'histoire forcément, mais on a été colonisé par les Français. Et donc depuis, le peuple Kanak se bat pour sa liberté, se bat aussi pour la reconnaissance de sa culture, notamment de ses langues, de façon d'être, etc. Donc toute cette lutte a été faite par nos vieux. Donc nous, on est là un peu pour continuer le travail. Personnellement, oui, je suis j'ai envie d'être impliqué plus dans tout ce qui est organisation internationale pour pouvoir parler de notre culture et de notre peuple.
Et votre langue ? Où en est votre langue ? Alors, vous avez plusieurs langues.
Oui, voilà. C'est vrai qu'en Kanaky, c'est assez plus compliqué qu'en Tahiti, par exemple, parce qu'on a plusieurs langues. Ce sont des langues distinctes, donc forcément, pour pouvoir les promouvoir, c'est compliqué. Il y a une académie des langues Kana qui a été créée dans l'accord de Nouméa et qui a été créée par Madame Dewe Gorodé, ministre du gouvernement. Donc ils sont en train de les promouvoir. C'est assez lent comme processus parce que c'est une langue d'enseignement comme c'est reconnu dans l'accord de Nouméa, c'est très compliqué à le mettre en place. C'est plus facile quand c'est des régions comme en province nord ou en province des îles où là la majorité du public des élèves est kanak, donc ça c'est plus facile. Quand il s'agit de Nouméa, de la capitale, où le public est très divers et forcément pas très enthousiaste à apprendre des langues kanak, c'est très compliqué.
Et donc l'application de l'utilisation officielle de la langue kanak donc est difficile, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les médias.
Oui. Dans les médias, j'aurais tendance à dire qu'elle n'est vraiment pas présent, même si à Jido ils font certaines choses. Et même si,
Radio Jido.
Radio Jido, ouais. Pardon, oui, si Radio Jido font certaines choses. Au niveau de l'administration, ils ont créé un concours récemment pour les professeurs d'école qui enseigneront les langues kanak, mais ça reste très très peu important par rapport à ce qui pourrait être fait. Ça, un coefficient banal, et oui, voilà, c'est pas banal, mais en tout cas ça reste mineur en fait.
Et dans les écoles ?
Dans les écoles, ça dépend vraiment, comme je l'ai dit précédemment, ça dépend vraiment de l'endroit en fait. Si c'est en province nord et en province des îles, ça se passe plutôt bien. Les provinces ont mis les langues kanak, même si forcément c'est assez compliqué parce qu'il faut faire intervenir les locuteurs ou sans négocier sur la qualité de l'enseignement et essayer d'intervenir aussi au niveau de la formation pour former des professeurs des écoles très qualifiés. Mais ils font des choses. C'est plutôt en province sud et à Nouméa en particulier où c'est très compliqué parce que certains ne sont pas très enthousiastes de voir les langues kanak enseignées, etc.
Et concernant la situation politique, où est-ce que vous en êtes? Et vous avez parlé des accords de Nouméa, ensuite il devrait y avoir donc un vote au niveau justement de toute la Kanaky pour l'évolution du statut. Où est-ce que ça en est?
Oui, c'est vrai, dans les accords de Nouméa, il y a une période où on aura normalement, je dis bien normalement, 3 référendums successifs, dépendant forcément du résultat des référendums, entre 2014 et 2018. Ça, c'est ce qui est écrit dans l'accord. Ce qui est écrit dans l'accord aussi, c'est que beaucoup de transferts de compétences doivent être faits durant la période de 1998 à 2014. Et que logiquement, il resterait après 2014 que les pouvoir régalien qui seront aux mains de l'État français.
Pour l'instant, vous êtes en retard.
Pour l'instant, on est très, très en retard. Et c'est tout le débat. Bon, forcément, on est en retard parce que certains veulent bien qu'on soit en retard. Et aussi parce que la marche est très compliquée. Enfin, on a eu la période Matignon où on s'est dit que en 10 ans, on pouvait tout faire. On s'est bien rendu compte que c'est très compliqué. Donc, on s'est donné plus de temps. ça ne veut pas dire que les transferts ne vont pas être faits. Enfin, non, les transferts sont en train d'être faits. Ils vont discuter normalement ce mois-ci. À la fin, bah, justement, ils sont en train de discuter en ce moment au ministère de l'Outre-mer, le FLNKS y est.
C'est-à-dire ?
Ils sont en train d'organiser un comité de signataires, parce que normalement, dans l'accord de Nouméa, tous les ans, il y a un comité de signataires où ils disent voilà, ce qui se va, ce qui ne va pas, etc., et comment les choses avancent. Bon, ils ont repoussé, ils ne le font pas tous les ans parce que c'est très compliqué, mais ils sont en train de le repousser parce que la question de l'après 2014, et aussi certains veulent la poser, mettre sur la table. Il y a une partie, grande partie du FLNKS qui pense qu'il faut, avant de parler de l'après 2014, il faut d'abord faire et mettre en place ces transferts de compétences et mettre en œuvre l'accord de Nouméa. Donc pour l'instant, ça reste dans le flou, on ne sait pas trop. Moi, j'aurais tendance à croire que le FLNKS va pousser pour que l'application de l'accord de Nouméa d'abord avant de parler de l'après. Donc, logiquement, on reste dans l'accord de Nouméa, c'est-à-dire qu'entre 2014 et 2018, on a des référendums possibles.
D'accord. Ouais. Et quel sera le terme du référendum, la question qui sera posée ?
Justement, logiquement, ce qui restera entre les mains de l'État, ce sera que des compétences régaliennes. Donc, je ne sais pas exactement la question qui va être posée, mais il semble que logiquement, ce serait sur cette question. Voulez-vous, oui ou non, le transfert des compétences régaliennes? Mais ce qui revient à dire, voulez-vous, oui ou non, l'indépendance? La souveraineté pleine et entière.
Oui. Voilà. Bien, on va suivre ça de près, de toute façon, en Pays Basque. Et vous connaissez un petit peu la situation en Pays Basque, vous avez des relations justement avec d'autres mouvements?
Personnellement, je suis jeune, je ne connais pas trop, mais oui, j'ai entendu parler, forcément j'ai discuté avec certaines personnes. Je sais que c'est une lutte aussi qui est très longue et qui est très difficile avec l'État français qui... Oh, tous qui ont toujours cette idée d'État unique, l'unicité de la République, ont tout le temps en train de dire ça. Dans la Constitution, il n'y a pas des peuples, il y a un peuple français, la citoyenneté, etc. Bon, j'ai toujours eu en tête cette idée que c'est très difficile en France de faire reconnaître des particularités régionales parce que l'État considère que ça remet en cause l'unicité de la République. Mais j'aurais tendance aussi à dire qu'il suffit de regarder en Italie, en Espagne pour se dire que c'est pas la peine de trembler devant des régions qui veulent juste, ou des régions ou des peuples qui veulent juste affirmer leur culture. Donc, oui. J'imagine que c'est la tradition jacobienne qui est un peu comme ça, mais bon, voilà. C'est, oui. Nous, on reste très forcément solidaires parce qu'on voit le peuple basque, les Bretons, etc., les Corses. Oui, on reste très solidaires parce que c'est un peu ce qui fait aussi notre lutte de s'affirmer, d'affirmer notre identité, notre culture. Et donc voilà. Enfin, mais j'ai pas de relation particulière.
Donc on a une démarche commune. Oui. Et donc c'est ce genre de rencontre ici à New York, c'est quelque chose de positif.
Oui, oui. Franchement, je suis très, très, très content d'être là. J'ai d'ailleurs repoussé, moi. Je devais normalement rentrer, finir cette semaine, mais j'ai repoussé pour pouvoir finir d'assister à toutes les réunions des peuples indigènes du monde. Ça fait chaud au cœur parce que parfois, on a l'impression qu'on est seul à lutter dans notre coin. Être ici et voir tous les peuples du monde dire que oui, on veut que notre culture soit reconnue, nos langues, nos façons d'être, nos façons de penser, que ce mode de développement, capitalisme, n'est qu'une partie ou qu'une façon de faire, mais on a nos façons de faire et probablement meilleures, puisqu'on va probablement vers certainement des grands problèmes avec les changements climatiques et certainement des crises économiques qui vont s'en suivre si on a des crises climatiques très fortes. Donc personnellement, moi, ça me fait chaud au cœur. Je vois tous les peuples qui sont là et qui se battent chacun de leur côté. On n'est pas seul. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le monde qui pensent comme nous, qui pensent que, oui, qu'on peut faire des choses et qu'on peut être au 21e siècle avec sa propre culture, sa propre identité. On ne va pas tous finir américains, on ne va pas tous finir au McDo, on ne va pas tous... Oui, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la diversité, ça ne fait qu'enrichir. On peut pas... On peut pas, je vois pas pourquoi on dirait que la diversité ou la différence c'est une menace. Non, que des gens en France parlent basque, c'est pas une menace. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça fait partie de notre richesse. Et voilà, ça fait partie de la richesse de la France et c'est pareil pour nous. Qu'on soit kanak et qu'on parle nos langues et qu'on veut préserver notre culture, ça fait partie de la richesse, ça fait partie de la richesse de l'humanité. Voilà, donc oui, personnellement, moi, je suis très, très heureux. J'ai rencontré plein de gens, vous, et oui, j'ai envie de rencontrer d'autres et de discuter, de partager, de voir ce qui se passe là-bas. Certains endroits, c'est très compliqué. En Amérique latine, c'est très compliqué parfois. Oui, des morts, des spoliations de terre encore et toujours. Et voilà, c'est... Oui, on s'est solidaires de tout ça.
Voilà. D'accord. Merci.
Je vous en prie. Merci.